le monde a connu quantité d'empires qui, au sommet de leur gloire, semblaient invulnérables. Et pourtant, il ne reste d'eux que leurs histoires dans les pages jaunies de vieux livres et sur des sites internet. Quelle image ! Et des objets d'art ! Je commence à lire le chapitre 13 du livre d'Osée. Dès qu'Éphraïm parlait, c'était la terreur. Il s'est élevé en Israël, mais il s'est rendu coupable en adorant Baal. C'est pourquoi il est mort. Ici commence la dernière menace contre Israël Nord. Elle est particulièrement énergique et cinglante. Comme dans tous les livres, Éphraïm désigne le royaume israélite des 10 tribus du Nord. Conformément à la bénédiction de Jacob, la tribu d'Éphraïm devient très puissante et produit des chefs tels que Josué, le fondateur du royaume d'Israël Nord. Devenue indépendante de Juda, cette nation devient idolâtre comme son premier roi. C'est Jéroboam Ier qui instaure le faux culte des veaux d'or, ce qui, d'un point de vue moral et spirituel, détruit le royaume vis-à-vis de Dieu. Il est mort. Car, comme l'écrit l'apôtre Paul aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Je continue. Et maintenant, voilà ces gens qui pêchent davantage, ces gens de leur argent des idoles fondues, des statues ciselées avec habileté, ouvrages d'artisans, que tout cela. Et pourtant, ils leur parlent, et les sacrificateurs d'hommes font des baisers aux veaux. Les idoles sont le fruit de l'esprit créatif et du travail d'un artisan, et pourtant, les adorateurs se bousculent pour porter la main à la bouche devant elle en signe d'adoration. Les sacrificateurs d'hommes sont les adorateurs de Baal. Comme en hébreu, le mot pour « homme » est « Adam », Osée ne parle pas ici de sacrifice d'enfants. À cette époque, ce crime horrible est commis pour honorer l'idole Moloch, aussi bien en Israël Nord que dans le royaume de Juda. Les sacrificateurs d'hommes font des baisers aux veaux. Peut désigner les prêtres qui, dans les environs de Sichem, assassinent les voyageurs qui vont à Bethel pour adorer les faux dieux dont le célèbre veau d'or. Cependant, en hébreu, cette phrase peut aussi vouloir dire « ceux qui parmi les hommes sacrifient, font des baisers aux veaux ». Dans ce cas, Osée souligne l'absurdité de cette conduite. Aujourd'hui, certaines personnes religieuses croient que de baiser certaines images, statues ou un lieu sacré est un acte d'adoration envers Dieu. Mais Jésus a enseigné que Dieu doit être adoré en esprit et en vérité, c'est-à-dire par sa façon de se comporter en affaires, dans sa famille, en société, dans la rue et partout ailleurs. Il faut aussi savoir qu'une attitude pieuse à l'Église n'a aucun mérite envers Dieu, car ce qui compte pour lui, c'est comment je vis tous les jours. Je continue le texte. C'est pourquoi ils seront semblables aux nuées matinales, à la rosée de l'aube qui bientôt se dissipe, à un fétu de paille emporté loin de l'air en tourbillon, et à de la fumée sortant d'une ouverture. Ces quatre éléments, qui disparaissent aussi sûrement que neige au soleil, évoquent la facilité et la rapidité avec laquelle les Israélites du Nord vont perdre leur identité nationale et leur autonomie politique avant d'être déportés en Assyrie. Je continue. Pourtant moi, l'Éternel, je suis ton Dieu depuis l'Égypte, et en dehors de moi, tu ne connais pas d'autre Dieu, et il n'y a pas de sauveur. L'Éternel déclare ici qu'il est le Dieu d'Israël, et qu'en dehors de lui, il n'existe ni Dieu ni sauveur, mais aussi, et indirectement, qu'il n'a jamais cessé d'être fidèle aux Israélites alors qu'eux se sont livrés à l'idolâtrie la plus grotesque. La pensée moderne a épousé le syncrétisme religieux sans trop réfléchir. Les gens croient que si divinité il y a, tous se valent et qu'il suffit d'être gentil envers son prochain et d'être fidèle à soi-même pour accéder au royaume des cieux. S'il y en a un, bien sûr. Mais dans son évangile, Jean rapporte que Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Et dans le livre des Actes, on lit que l'apôtre Pierre a déclaré « C'est en lui, Jésus seul, que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. » Je continue le texte. « Je t'ai connu dans le désert, dans une terre aride. Cette connaissance intime entre l'Éternel et le peuple hébreu a commencé au pied du mont Sinaï, quand la loi fut donnée, et s'est poursuivie pendant les 40 années de pérégrination dans le désert, période pendant laquelle Dieu a prouvé sa fidélité en pourvoyant à tous les besoins de son peuple. Je continue. Lorsqu'ils sont arrivés dans de grands pâturages, ils se sont rassasiés. Quand ils furent repus, l'orgueil les a saisis et ils m'ont oublié. La satisfaction des appétits naturels des Israélites les a conduits à l'orgueil. Le prophète Osée a déjà dit que la prospérité est l'une des raisons de l'infidélité du peuple. Je rappelle ce passage. Plus Israël a eu de fruits, plus il a édifié d'autels, plus sa terre était belle, plus il embellissait les stèles pour ses divinités. Je continue le texte. « Mais je serai pour eux semblable à un lion, et comme un léopard sur leur chemin, je serai aux aguets. » Comme l'Éternel s'est allié aux Assyriens, il leur sert de guetteur. Osée fait un jeu de mots quand il dit « je serai aux aguets », car le verbe hébreu est homonyme de « Assyrie ». Les deux se prononçaient « Achour ». Je continue. « Et comme une ours privée de ses petits, je les attaquerai et les déchirerai l'enveloppe du cœur. Je les dévorerai là, comme un lion. Ils seront mis en pièces par les bêtes sauvages. » Dur dur, le berger d'Israël devient son prédateur. La scène décrite est brutale, mais c'est ce que sera l'invasion assyrienne. Curieusement, les trois bêtes sauvages citées par Osée apparaissent également dans la vision du prophète Daniel, pour représenter un empire, le lion est Babylone, le léopard la Grèce et l'ours la Perse. Je continue le texte. « Ce qui t'a perdu, ô Israël, c'est d'être contre moi, contre celui qui est ton secours. » Depuis que le royaume des 10 tribus a rejeté l'Éternel, il s'est privé de son seul soutien. Pareillement, quand je me sens perdu et qu'une tuile me tombe sur la tête, je dois considérer ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive parce que je suis souvent mon pire ennemi. Cela dit, il y a des malheurs qui fondent sur nous sans aucune raison, sinon que nous sommes une race maudite depuis son origine. Mais c'est aussi pour cette raison que Jésus est venu, pour nous racheter de cette malédiction. Je continue. Où est-il à présent votre roi? Où est-il? Qu'il vienne pour sauver dans toutes vos cités. Où sont-ils à présent, vos magistrats, auxquels vous demandiez? Donnez-nous donc un roi et des ministres. Oui, j'ai dit, je te donnerai un roi dans ma colère. Je te le reprendrai dans mon indignation. Ce passage rappelle la réaction de l'Éternel quand les responsables du tribu d'Israël ont voulu un roi. À cette occasion, Dieu a dit au juge Samuel, « Écoute ce peuple et accepte toutes les demandes. » En effet, ce n'est pas toi qui rejettes, c'est moi. Ils ne veulent plus que je règne sur eux. Plus tard, Les 10 tribus se sont révoltées contre Dieu et ont voulu leur propre roi. Mais à quoi bon? Les changements de dynastie se sont souvent faits au flingue dans un bain de sang. Il y a eu 21 rois. Tous furent idolâtres et le dernier Osée a fini exilé en Assyrie. Je continue. Le crime d'Éphraïm est bien enregistré et son péché est bien noté. Toutes les fautes d'Israël neuf sont documentées et consignées jusqu'au jour du règlement des comptes, et ce document témoignera contre lui. Je ne me sens pas trop concerné par les péchés d'Israël, mais par les miens, certes, oui, parce que tout ce que j'ai fait ou pensé est soigneusement catalogué dans un livre. Or, on sait que des livres seront ouverts et serviront à juger tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus comme sauveur. Pour les croyants, par contre, leur faute a été placée sur Jésus quand il a été crucifié, et sa mort les a expiés. Je continue le texte. Les douleurs de l'enfantement surviennent pour lui, mais c'est un enfant stupide. Il est à terme et ne quitte pas le sein maternel. Israël Nord est comparé à un bébé qui refuse de naître, c'est-à-dire de se repentir en revenant à l'Éternel. Ce refus est stupide parce qu'il conduit à la mort. Les douleurs de l'enfantement sont les invasions assyriennes qui eurent lieu à partir de la royauté de Ménéhem, ainsi que les lourdes tributs qu'ils ont dû verser à la Syrie. D'ailleurs, c'est le refus de payer ce tribut qui met le feu aux poudres et déclenche l'attaque en règle et systématique du royaume des 10 tribus du Nord par les Assyriens. Nous arrivons à un passage difficile. Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre? Et de la mort, devrais-je les sauver? Ces deux questions que l'Éternel se pose sous-entend un non franc et massif pour réponse. Dieu ne va pas épargner les Israélites du Nord. Je continue le même verset. Aux morts, où sont tes pestes? Sépulcre, où sont ton pouvoir destructeur? Je ne veux plus les avoir en pitié. C'est comme si Dieu disait, quoi? Les Israélites voudraient que ni la mort, ni le sépulcre, ni de puissance sur eux? Non, je ne peux plus les avoir en pitié. Ces deux interpellations de la mort sont reprises par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, dans son discours sur la résurrection des croyants. Ce que Dieu n'a pas pu faire pour les Israélites à cause de leur révolte contre lui, il le fera pour ceux qui placent leur foi en Jésus-Christ. Je finis de lire le chapitre 13. Il, Éphraïm, a beau prospérer parmi ses frères. Le vent d'Orient viendra, un vent de l'Éternel montera du désert et il déchèchera à la source d'Éphraïm, et sa fontaine tarira. L'ennemi pillera le trésor où sont amassés tous les objets précieux. Éphraïm, qui signifie fécond, fertile, fait assonance avec prospérer. C'est comme si Osée disait « Prospère a beau prospérer ». Le vent d'Orient viendra, c'est-à-dire les Assyriens qui submergent Israël Nord, sous le règne de Pekah, et qui revinrent 9 ans plus tard pour finir le travail et prendre Samarie, qui est la capitale du royaume depuis que le roi Omri avait acheté la montagne sur laquelle il était bâti. Nous arrivons au chapitre 14, le dernier du livre d'Osée. Le premier verset devrait plutôt faire partie du précédent chapitre, car il étale brièvement et brutalement la situation et les reproches et châtiments que Osée a exposés tout au long de sa prophétie. Je commence à le lire. Samarie paiera pour ses crimes parce qu'elle s'est révoltée contre son Dieu. Ses habitants mourront sous les coups de l'épée. Ses bébés seront écrasés et l'on fendra le ventre de ses femmes enceintes. Ce langage particulièrement violent correspond à ce qui est écrit dans les malédictions du traité d'alliance, c'est-à-dire la loi de Moïse. Je continue. « Reviens donc, Israël, à l'Éternel ton Dieu, car ce sont tes péchés qui ont causé ta chute. » À partir d'ici, le prophète donne libre cours aux promesses de restauration du peuple, promesses qui depuis longtemps bouillonnent dans son cœur. Cependant, il parle posément et n'est jamais exubérant. Son discours est celui d'un homme qui est confiant, car il sait qu'un jour tout finira pour le mieux pour Israël. Je continue. Apportez vos paroles et revenez à l'Éternel et dites-lui, pardonne toute faute, accepte qu'en retour nous t'offrions en sacrifice en guise de taureau le mage de nos lèvres. Osée exhorte le peuple à la repentance, à reconnaître ses péchés. Littéralement, il dit, nous t'offrirons en retour nos lèvres à la place des taureaux. Habituellement, c'est un animal en sacrifice qu'on apporte à l'autel, mais ici, l'offrande se compose de paroles de repentance, d'humiliation et de reconnaissance. Dieu dicte d'avance ce que les Israélites doivent dire d'un cœur sincère. Je continue. Ce n'est pas la Syrie qui pourra vous sauver. Nous ne monterons pas sur des chevaux de guerre. Et nous ne dirons plus à l'œuvre de nos mains, toi, tu es notre Dieu, car c'est toi, Éternel, qui prends pitié de l'orphelin. Dans les Écritures, l'orphelin et la veuve symbolisent celui qui est faible et sans défense. Ici, l'orphelin représente Israël mis en déroute par les armées assyriennes. Osée prophétise l'action de grâce que, dans l'avenir, le nouvel Israël pardonné et purifié rendra à Dieu. Le peuple élu renoncera définitivement à tous ses anciens démons qui lui servaient d'appui contre la Syrie, moyennant finances et sa propre force militaire représentée par les chevaux de guerre. Ceux-ci sont importés d'Égypte, un autre pays sur lequel Israël s'appuie. Mais la seconde et plus grande faute d'Israël est de vénérer les idoles, de leur offrir un culte, surtout à Baal, le dieu de l'orage et de la fertilité. Au XXIe siècle, l'adoration des objets et des statues a encore de très beaux jours devant elle, car ce genre de dévotion est en expansion. Durant la crise qui a commencé en 2008, pour vendre leur maison, certains enterrent dans leur jardin une statuette représentant Saint Joseph. Par contre, ce qui se vend toujours bien, quelle que soit la crise, ce sont les symboles religieux, les amulettes et les fétiches comme la patte de lapin ou le Saint-Christophe. Très pratique, cet objet fait double usage, car il sert à la fois de porte-clé et de porte-bonheur, ou vous protégeant quand vous roulez en voiture. Pour davantage de sécurité, vous pouvez aussi clouer un fer à cheval sur la porte de la grange ou de votre portail. Et puis, il y a les reliques de ceux qu'on appelle saints. Bref, la liste est longue. Je continue le texte. Moi, je les guérirai de leur apostasie. Je leur témoignerai librement mon amour parce que ma colère se détournera d'eux. Osée a décrit l'infidélité d'Israël Nord dans les trois premiers chapitres du livre sous les traits d'une femme qui a la fâcheuse tendance à l'adultère. Osée l'épouse, sur l'ordre de l'Éternel, tout en cherchant ce qu'il l'attend. Par cette union, il se comporte comme le Seigneur envers son peuple infidèle. Mais le jour vient où l'Éternel pardonnera à Israël et le guérira de ses mauvais penchants et surtout de l'idolâtrie qui est une maladie de l'âme. Osée ne dit pas pourquoi l'Éternel dit « Ma colère se détournera d'eux ». Mais le Nouveau Testament l'explique, je continue. « Oui, je serai pour Israël semblable à la rosée. Il fleurira comme le lys, et s'enracinera comme le cèdre du Liban, par opposition au vent d'Orient qui dessèche tout sur son passage. La rosée est une action bienfaisante sur les plantes. Elle est rafraîchissante, Esther a illustré la bénédiction qui vient de l'Éternel. La véritable source de la fertilité est de la prospérité. Le lys, qui symbolise la pureté, remplacera les morses corrompues d'Israël. Le cèdre est un arbre connu et prisé pour ses racines profondes qui lui permettent de résister aux sécheresses et aux vents violents. Par ailleurs, il possède une végétation luxuriante et dégage une odeur différente. Il représente la puissance, la splendeur et la prospérité. Je continue. Ses rameaux s'étendront au loin, et il aura la majesté de l'olivier, et son parfum sera semblable à celui du Liban. Ceux qui viendront habiter à son ombre cultiveront à nouveau le blé et fleuriront comme la vigne, et ils auront la renommée des grands vins du Liban. La gloire du nouvel Israël rayonnera dans le monde entier. Elle sera une source de bénédiction pour tous ses membres et toutes les nations. Cette scène correspond à l'ère du millénium, quand Jésus-Christ régnera sur toute la terre à partir de Jérusalem. Dans le chapitre 14, le Liban est mentionné trois fois parce qu'il sert de point de comparaison aux bénédictions que Dieu réserve à son peuple. En effet, l'esplendeur de cette chaîne de montagnes qui culmine à 3083 mètres, qui, au nord, délimite la terre promise, symbolise la magnificence du royaume de Dieu en Israël. On se rend compte ici que le prophète vit bien dans le royaume du nord et aime sa patrie. Je continue le texte. Éphraïm dira, « Qu'ai-je encore à faire avec les idoles ? Moi, je l'exaucerai, je veillerai sur lui. » Les deux verbes « je l'exaucerai » et « je veillerai » font respectivement assonance avec les noms des déesses Anat et Ashera, les compagnes de l'idole Baal. Les jeux de mots sont légion dans ce livre. Osée a dénoncé l'idolâtrie d'Israël Nord de mille et une façons. Son cas est tellement désespéré qu'il a même dit « Le peuple d'Éphraïm s'est lié aux idoles, qu'il aille son chemin. » Maintenant par contre, c'est-à-dire à la fin des temps, le nouvel Israël dira « Que j'ai encore à faire des idoles, Dieu me suffit amplement. » Je continue le texte. « Je suis comme un cyprès qui reste toujours vert. Tu, Éphraïm, porteras du fruit, et c'est moi qui l'aurai produit. » En hébreu, « fruit » fait assonance avec Éphraïm, qui veut dire fertile. Dans cette scène, l'Éternel se présente à la fois comme un arbre vivace qui ne perd jamais sa verdure, et comme le véritable Dieu de la fécondité par opposition à Baal. Je finis de lire le chapitre 14 et le livre d'Osée. Qui donc est assez sage pour comprendre ces choses, assez intelligent pour les connaître? Les voies que l'Éternel prescrit sont droites, les justes les suivront, tandis que les rebelles trébucheront sur elles. Le prophète lance ici un défi, et la réponse que chacun donne à sa question dépend des dispositions de son cœur. Les quelques Israélites du Nord qui sont justes comprennent et tirent profit de cette prophétie en persévérant dans la piété et peut-être aussi en allant se réfugier en Juda. Par ailleurs, comme les empires assyriens, babyloniens et perses se confondent plus ou moins, il est certain que des descendants pieux des Israélites du Nord exilés ont fait partie de la colonie juive conduite par Zorobabel qui retourna en Israël. Pour les rebelles, par contre, cette prophétie augmente leur culpabilité et rend leur jugement plus sévère. Quant à vous, si vous avez suivi ce livre jusqu'au bout, vous faites certainement partie des justes.